va faire deux lectures. Dans le livre des Actes, chapitre 4 et verset 8, et puis dans l'épître aux Hébreux. Actes, chapitre 4 et verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » On arrête la lecture. Pierre est sommé de s'expliquer devant les religieux juifs. Et là, il leur fait, par le Saint-Esprit, cette déclaration. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et maintenant, on fait une seconde et dernière lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Personnellement, j'aime beaucoup le pratique, le concret, l'action. Ça a même orienté à un moment donné mes études parce que l'abstrait, j'arrivais pas à aller plus loin parce qu'il me fallait la concrétisation des choses. Et j'aime beaucoup les affirmations de la parole de Dieu en ce qui me concerne. Quand on voit le Seigneur à l'action, voilà. On peut parler de Dieu, je ne veux pas dire que c'est de la théorie, que c'est de l'abstrait, mais on ne le voit pas. Il existe et beaucoup en parlent. Mais quand Jésus vient, là on est dans le concret, on est dans le vif du sujet. Et ça va tellement bouleverser l'humanité qu'encore aujourd'hui, des hommes et des femmes ont des vies transformées à cause de cette intervention du Seigneur qui a commencé et qui se continue. Donc on est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, et là on est dans le concret. On n'est pas simplement avec un Dieu au-dessus de tout qui serait le même du reste. Dieu ne change pas. Mais là, il envoie son Fils qui rentre dans le monde et qui dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est le rouleau du prophète Ésaïe, du livre du prophète Ésaïe. « Pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et on est dans le vif du sujet. Et on est dans le concret. Christ, entrant dans le monde, vient faire la démonstration, non seulement de Dieu qui existe, mais de Dieu qui nous aime. Et qui vient nous chercher et nous sauver. Et l'intervention du Seigneur dans ce monde n'est pas pour établir une croyance, une religion. L'intervention du Seigneur dans ce monde est pour agir dans la vie de tous les jours, de ces hommes et de ces femmes qui sont dans la difficulté. Et le Seigneur va agir dans le domaine physique de la vie des hommes et des femmes. On va venir à lui souvent, très souvent, pour être guéri dans sa santé. Et le Seigneur va le faire. Il va honorer les démarches, quel que soit le niveau de foi, de spiritualité de ceux qui s'approchent. C'est leur attitude ensuite qui va démontrer quelle était leur motivation profonde. dix lépreux sont guéris, il n'y en a qu'un qui revient donner gloire à Dieu. Voilà. Mais il vient pour intervenir dans la dimension physique de la vie des hommes et des femmes de ce monde. Et il faut que nous nous approchions du Seigneur pour cela. Il ne faut jamais baisser les bras. Il y a et il y aura autour de nous des hommes et des femmes en difficulté dans le domaine physique de leur vie, en souffrance. Ce n'est pas parce qu'il y en a eu, qu'il y en a et qu'il y en aura que le Seigneur n'intervient pas. Tous les malades du temps de Jésus n'ont pas été guéris. C'est vrai. Mais beaucoup et tous ceux qui se sont approchés de lui ont été guéris, ont été bénis. Et c'est vrai aussi. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? Sur quoi est-ce que je vais porter mes regards, mon attention? Sur ceux qui n'ont pas été bénis ou sur ceux qui l'ont été et qui attestent que le Seigneur est capable d'agir dans nos situations, dans nos vies, dans le domaine physique? Il y avait des médecins à l'époque qui faisaient tout pour soigner. Mais en l'occurrence, cette femme atteinte de perte de sang avait passé des années utilisé tout son bien pour essayer d'être soignée. Ça n'avait pas abouti. Alors elle s'approche du Seigneur Jésus et elle touche le bord de son vêtement, se disant en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle l'a été. C'est pour cela que le Seigneur ne vient pas en opposition par rapport aux capacités des hommes, du reste que lui-même leur a donné, à leurs compétences qui ont progressé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les compétences qui ont progressé. Il y a tous les problèmes de santé qui ont progressé aussi, qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours le même écart. On est très compétent, mais c'est très compliqué. Voilà. Et ce qui veut dire que le Seigneur ne vient pas en opposition ni en négation de ses compétences données aux hommes et aux femmes, mais il vient là pour agir quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus de solution, quand, raisonnablement parlant, eh bien, on ne sait plus comment faire. Approchons-nous de lui. Osons lui apporter notre situation dans le domaine physique. Voilà. Un constat a été fait. Maintenant, Seigneur, je compte sur ta grâce dans le domaine de ma santé. Est-ce que vous priez dans ce sens-là? Est-ce que vous comptez sur le Seigneur dans ce domaine-là? Aujourd'hui, parce que les expériences d'hier sont utiles, mais là, ça ne change pas la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin de compter sur le Seigneur comme j'y ai compté hier et comme d'autres l'ont fait avant moi. Le Seigneur est venu et il a fait apparaître que le péché avait complètement séparé l'homme de son Créateur, l'enfant de son Père. Et il va rétablir la relation entre les hommes et Dieu, nous ramener dans une dimension spirituelle, parce que nous ne sommes pas simplement là, dans une dimension physique et émotionnelle. Nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a créés à son image, et il a voulu qu'il y ait en nous une dimension d'ordre spirituel. Est-ce que vous prenez soin de votre vie spirituelle? Remarquez que dans la vie spirituelle, on ne peut que progresser, puisqu'on était mort. Et qu'il n'y avait plus rien de spirituel en nous, pas dans le sens humain du terme, quelqu'un qui a de l'esprit ou qui fait de l'esprit, mais dans le sens éternel du terme. Cette dimension spirituelle qui vient de Dieu, qui relève du Noé. De ce souffle de Dieu, du pneuma, de ce souffle de Dieu qui est la vie éternelle. Et cette coupure en nous avait généré beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, s'approcher de Dieu dans le domaine spirituel, venir vers lui pour recevoir ce qu'il a promis et dont on a déjà parlé, le baptême de l'Esprit, qui va même faire dire à l'apôtre Paul qui découvrira cette dimension, je parle en langue plus que vous tous, et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà. Eh bien, c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre vie. Est-ce que vous prenez soin de votre vie spirituelle? Vous nourrissez, nous nourrissons notre vie physique, notre vie intellectuelle, notre vie émotionnelle. On a besoin des autres et on leur fait du bien, ils nous font du bien et ça va mieux. Hein. Quand vous passez des journées dans cette dimension-là, ça va mieux. Plutôt que dans l'agressivité, dans les reproches, dans le fait de mal parler, de médire, c'est beaucoup mieux d'autres choses, beaucoup plus agréables. Mais ce n'est pas le plus important dans notre vie. Le plus important dans notre vie, c'est la dimension spirituelle dans laquelle le Seigneur veut nous faire rentrer. Et il est venu pour cela, parce qu'il y avait une coupure. Et puis il est venu pour apporter au monde la vérité concernant le bien et le mal. Il y avait un dérèglement absolu qui, aujourd'hui encore, a ses conséquences. C'est que quand vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui est bien pour lui et qu'est-ce qui est mal pour lui, puis que vous allez en voir un autre, vous voyez que ce n'est pas les mêmes réglages par-ci et par-là. C'est à géométrie variable. Et le Seigneur est venu établir la vérité. Il a dit ce que sont les choses. Il a même dit que notre façon de penser peut déjà être répréhensible. De concevoir les choses peut déjà être répréhensible. Alors que pour certains, ça ne leur pose aucun problème de parler d'une certaine manière, de penser d'une certaine manière. Tout ça parce que nous sommes complètement déréglés. Nos curseurs ont bougé, il n'y a plus de repères valables. Et le Seigneur est venu devant une humanité dont le constat moral est mauvais, est vraiment mauvais. Il y a des choses qui sont curieuses. Et ça veut dire qu'au niveau moral, aujourd'hui, il y a des choses qui sont bizarres. Et on en arrive au point où le Seigneur a dit, on appellera le mal bien et le bien mal. Et aujourd'hui, suivant ce que vous dites à quelqu'un, c'est vous qui êtes répréhensible. Et la loi va même dans ce sens-là. Recoupure. Donc, il entre dans le monde. Quel constat. Il ne l'avait ni voulu, ni laissé dans cet état. Mais il l'est devenu. Et il entre dans le monde pour intervenir dans la vie physique, dans la vie spirituelle, dans la vie morale des gens. Mes frères et sœurs, il y a de l'espoir pour nous, dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans le domaine moral. Voilà. Même celui qui n'aurait jamais eu de vrais repères, ou de repères vrais, sains devant lui, tout est possible désormais. Voilà. Et on sait où est le bien, on sait où est le mal, on sait ce qu'il convient de faire, on sait ce qu'il convient de ne pas faire, et non pas parce qu'on suit un règlement, mais parce qu'on est sorti d'un dérèglement. Et maintenant, tout est calé. Et tout cela relève de notre communion avec Dieu. Le Seigneur vient, et il vient s'opposer à ce qui a été l'origine du dégât dans le monde, c'est la tentation. La tentation, je pense qu'il doit y avoir une école de hautes études, comme il y a HEC, doit y avoir acheté. Autre étude de tentation. Parce que aujourd'hui, on est tenté de toutes les manières, dans tous les domaines. C'est surprenant. Et le niveau, le niveau baisse, je m'explique. Le niveau à partir duquel la tentation s'adresse à quelqu'un, a baissé. Aujourd'hui, même les enfants sont tentés le plus tôt possible, dans tous les domaines, et vous êtes surpris. Ça fait partie, entre parenthèses, des sujets abordés aujourd'hui avec les moniteurs, monitrices du culte pour enfants, parce qu'il ne faut pas avoir un langage angélique ici, le dimanche, parce que le lundi, eux, ils sont dans une autre réalité. Et il faut savoir aborder certains sujets, aujourd'hui avec des enfants de 10 ans, qu'on abordait il y a quelques années avec des enfants de 14 ou 15 ans. Ça peut surprendre des parents, mais les enfants, quand il n'y a pas les parents, ils parlent. Au culte des enfants, les enfants parlent. Non pas parler mal, mais ils parlent de leur vie, de tous les jours, à l'école, au collège et plus loin. Et c'est là où vous vous dites, faut pas que nous on soit décalés. Et c'est là que vous constatez que la barre a baissé. On n'attend pas qu'ils aient 14 ans pour leur proposer certaines choses. Le plus tôt sera le plus efficace. Voilà. Et le Seigneur est venu parce que la tentation s'adresse à l'humanité dans son ensemble. Et le Seigneur vient pour s'opposer à la tentation, pour la vaincre, et nous donner au moyen de la prière l'arme efficace. Et c'est ça qui est extraordinaire. Nous sommes tombés dans le piège de l'apparence. Aujourd'hui, on ne soigne que l'apparence, que la façade. Et c'est ce qui s'est passé en Éden. On a vu que l'arbre était beau, le fruit était bon, mais personne ne l'avait goûté. Mais on a quand même conclu. C'est-à-dire que la tentation se focalise sur l'extérieur et sur l'apparence des choses, Le Seigneur est venu rétablir la réalité, il faut regarder au cœur. Il ne faut pas s'arrêter à l'apparence de quelqu'un, ni à ce qu'il dit. Il faut vérifier et on reconnaîtra l'arbre à son fruit. La preuve, c'est que dès que leurs yeux s'ouvrent suite à cette tentation, ils ont vu qu'ils étaient nus. On est dans l'apparence des choses, on est dans la dimension extérieure des choses, et puis surtout, on est dans l'égocentrisme. On se regarde, et on ne regarde plus le Seigneur, on n'est plus capable de voir Dieu, mais par contre, on voit très bien l'autre. Voilà. Jusqu'à présent, il n'est pas dit qu'il se voyait mal, mais il est dit qu'il voyait Dieu tous les jours. À partir de là, il se voit autrement, mais Dieu, il ne le voit plus pareil. À tel point que on a eu peur. Mais comment vous avez eu peur? Qu'est-ce que j'ai fait? La question n'y est pas. Mais l'Éternel pourrait dire, je suis venu tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous ayez peur? Qu'est-ce que j'ai fait hier pour qu'aujourd'hui vous ayez peur? Avant-hier pour qu'aujourd'hui vous ayez peur? C'est la dégradation du péché en nous suite à la tentation qui fait qu'on ne regarde plus Dieu comme il convient. On ne regarde même plus les autres comme il convient. Tout est faussé. Et parfois nous avons des raisonnements à l'égard de Dieu, qui sont faussés. Voilà. J'ai même rencontré des frères et sœurs, des chrétiens, fâchés à l'égard du Seigneur. Alors, quand quelqu'un est fâché, il faut faire attention comment vous lui parlez quand même, parce qu'il peut se fâcher encore plus. Après, c'est contre vous qui se fâche. Comme quoi, c'est déjà pernicieux, la chose. Mais quand on arrive à aborder la conversation, mais pourquoi vous êtes fâché avec le Seigneur ? Parce qu'il n'a pas fait ce que j'attendais, répondu comme je le demandais, etc. Et là, ça tourne autour de soi, à juste raison. Hein. Je ne vais pas juger des raisons, mais le constat, c'est que ça tourne autour de soi. Et ce n'est pas bon quand ça tourne autour de nous. Parce que Job, par rapport à tout ce qui lui est arrivé, a dit, je ne comprends pas, mais je n'attribue rien d'injuste à Dieu. Il a été capable de garder cette position. Et cette position, il faut la garder. Alors il se cache loin de sa face. Et c'est pour cela que le Seigneur rentre dans le monde. Non, non, je vais vous trouver. Excusez-moi, permettez-moi pardon de le dire comme ça. Vous vous cachez, mais moi je viens vous chercher. Chercher et sauver ce qui était perdu, c'est peut-être aussi notre façon de voir. Vous vous êtes caché, vous vous êtes perdu, à force de vous cacher de ma face. Eh bien, je viens vous chercher et vous sauver. Et il met tous les moyens en place pour venir nous chercher, nous sauver. Voilà. Et quand dans la Genèse, on entend cette déclaration terrible, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur !» Je ne sais pas si ça vous est arrivé un jour d'entendre quelqu'un qui vous dise « J'ai peur de vous !» Si vous êtes méchant et violent, bon, ça peut être normal. Mais si ce n'est pas le cas, ça vous affecte. Au plus profond de vous-même. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que vous ayez peur de moi? Vous ayez peur de ma présence, vous ayez peur de ma parole, vous ayez peur de mes gestes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, le Seigneur vient, moi je le vois sous cet angle-là, même les enfants viennent auprès de lui. Et quelque part, vu du côté du Seigneur, je me dis, eh bien, c'est un juste retour des choses. Cet être que tu as créé a eu peur de toi, et maintenant, Seigneur, des enfants viennent à toi. Ça fait plaisir quand des enfants viennent naturellement vers vous. Vous venez de rencontrer quelqu'un qui a eu peur de vous, vous arrivez à vous demander si c'est vous qui êtes normal finalement dans votre comportement. Et l'instant d'après, les enfants viennent vers vous. Alors non, 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 c'est pas moi. C'est que quelque chose s'est passé dans le cœur des autres, mais ce n'est pas moi. Et Dieu ne doit faire peur à personne. Il ne fait peur à personne. Et comment pouvons-nous l'attester? Parce que quand il vient, on appellera Dieu avec nous. Quand il vient, sans avoir d'apparence particulière pour frapper les regards, ni dans un sens, ni dans l'autre, il n'avait rien pour attirer les regards. Et naturellement, les enfants vont vers lui. C'est la démonstration que si nous ne nous approchons pas de Dieu, parce que nous avons peur de lui pour une raison ou pour une autre, c'est que c'est chez nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il est hors de question que le Seigneur nous fasse peur. Ah, je t'ai attrapé! Qu'est-ce que tu étais en train de faire là? Quand on vous le sort comme ça, la prochaine fois que vous voyez cette personne dans l'angle de vision, vous dites, bon, on va se tenir à carreau. Hein? Eh bien, le Seigneur, jamais il ne nous l'a fait. Et pourtant, S'il y en a un à qui, sous le regard duquel rien ne se dérobe, c'est lui. Jamais il ne nous a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de penser là? Qu'est-ce que tu es en train de projeter là? Jamais. Il n'agit à aucun moment pour que nous ayons peur de lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur vient pour s'opposer à une réalité terrible qui s'est passée dans le monde, c'est que tout le monde a touché de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, pour verser dans le mal. Et lui, il vient de l'arbre de vie. Et il nous laisse la totale liberté de nous approcher de lui et de toucher de l'arbre de vie, pour recevoir la vie éternelle. Et les dernières choses que le Seigneur va faire, c'est qu'il va venir pour nous comme le médiateur entre les hommes et le Père. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il n'y en a pas d'autre que lui, médiateur entre les hommes et Dieu. Il vient et il nous dit, c'est vrai que Dieu est un juge éternel, mais le jugement de ce monde, c'est maintenant qu'il a lieu. Et le châtiment, c'est moi qui vais le prendre. Et le pardon, c'est vous qui allez le recevoir. Et ça change toute notre vie, ça. Puisque le brigand sur la croix en a bénéficié. Il est venu pour purifier nos cœurs et nous donner déjà une nouvelle naissance. On en parlait il y a quelques jours, mais c'est extraordinaire déjà d'être parti dans une nouvelle naissance. Voilà. Et un jour, c'était, je crois que c'est ça, c'était la semaine dernière que je plaisantais avec ça, mais un jour, nous serons les hommes et les femmes plus beaux que jamais nous ne l'avons été. Nous serons à la mesure de la stature parfaite de Christ et c'est la perspective pour notre vie. Peut-être que certains dans leur vie n'ont pas fait partie de ceux que l'on a pris en photo. Parce qu'on dira, la vie ne vous a pas fait de cadeau. De ceux sur lesquels le mal est tombé plus que sur d'autres. Mais ça, chez une chose, ça ne dure que quelques années. Pour l'éternité, ce sera la perfection. Alors je le disais en plaisantant la semaine dernière, pour tous les pas beaux du monde et tous les pavels du monde, il y a une perspective extraordinaire qui a déjà commencé au travers de la nouvelle naissance, qui commence par l'intérieur pour se finir par l'extérieur. Exactement comme la dégradation dans la Genèse s'est passée, ça a commencé par l'intérieur pour se finir à l'extérieur, eh bien, l'œuvre que le Seigneur est venu faire est la même en opposition pour commencer par l'intérieur et finir par l'extérieur, et pas l'inverse. Donc, Ne nous approchons pas de lui simplement pour que le Seigneur change l'extérieur. Notre corps, nos situations, tout ce qui tourne autour de nous et qui est nécessaire de présenter au Seigneur, qu'il est nécessaire de lui présenter, il le fera. Mais lui, il vient pour l'intérieur, en priorité. Et ce soir, nous présentons des sujets de prière qui sont du domaine de l'extérieur, sans vouloir les négliger en aucune manière. Mais la priorité des priorités, c'est l'intérieur. Et quand on regarde Jésus sur la croix, et je termine avec ça, c'est le rendez-vous de l'humanité avec la divinité. C'est le rendez-vous de ce qui dure quelques années avec l'éternité. Est-ce que je vais saisir, moi, l'humain, ce qui est divin et ce qui est spirituel? Est-ce que je vais saisir des choses qui me tirent vers le haut? Est-ce que je vais saisir, moi, qui a une vie limitée, la vie éternelle que le Seigneur veut me donner? C'est ça. C'est pour cela qu'il est rentré dans le monde. Et il n'est pas venu pour établir une religion, un système de croyance. Il est venu pour bouleverser fondamentalement nos vies. Voilà. Et il le dit à la fin, concernant le péché, je ne m'en souviendrai même plus. Alors si quelqu'un ce soir devait dire, Seigneur, bénis-moi dans ma santé, dans mes situations, dites-le. Si quelqu'un devait dire, Seigneur, pardonne mon péché, dites-le.
Amen.
Amen.